Bonjour, vous êtes bien installé? Prenez votre temps, c'est votre moment. Le calme vous entoure, votre respiration s'apaise, vous êtes prêt. Vous saisissez ce livre qui n'attend que vous. Au creux de vos mains, il se réchauffe, se réveille et commence doucement à pénétrer votre esprit. Le livre en vie, c'est l'occasion de partager avec vous mes expériences singulières, mes rencontres avec ces livres dont on ressort toujours un peu plus vivant. Quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Aujourd'hui, l'immense classique « Légende d'automne » de Jim Harrison. L'histoire de plusieurs hommes, écrite par un homme, qui donne presque envie d'en devenir un. Trois nouvelles puissantes qui sentent la sueur, transpirent la poussière et obligent à se tenir tout petit dans un coin pour ne rien manquer du spectacle qu'offrent les mots. Yann Kefelek écrit « Les romans de Harrison font entrevoir en chacun de nous l'ombre portée du criminel, du tricheur et du saint. Il enivre les mots, les saoule à mort. » Avec son style abrupt mais aussi poétique, l'écrivain américain nous offre ici un recueil de trois nouvelles saisissantes. Jim Harrison nous a quittés en 2016. Il laisse une œuvre magistrale, splendide, incontournable. Vu du ciel avec un regard d'oiseau et justement un vautour descendait en spirale, il était impossible de dire si l'homme nu qui gisait sur le sol était vivant ou mort. L'homme, lui-même, n'en savait rien, et le rapace, en atteignant le sol, s'approcha en boitillant de travers, hésitant, lançant un coup d'œil oblique vers les ronces qui encombraient le ravin, craignant peut-être l'arrivée des coyotes. Car le partage d'une charogne ne se fait jamais selon le désir du premier arrivé. Cela se décide en fonction d'un rite établi depuis longtemps, bien avant que l'on sache que des rites pourraient exister un jour. Le vautour était repu. Il venait de dévorer les restes d'un serpent à sonnette écrasé par un camion près de Nacorazzi de Garcia, une petite bourgade située à l'écart du flot touristique, à une centaine de miles de Nogales. Pour le moment, les coyotes se contenteraient d'observer les approches du vautour. Ils ne s'approcheraient pas, même si leur chasse de la nuit avait été infructueuse. Plus tard, à mesure que l'air du matin s'échaufferait sous le soleil, d'autres vautours arriveraient et la très lente agonie de l'homme aurait enfin son public. L'aube cédait la place au matin et la chaleur séchait le sang sur le visage du blessé, évaporant sa fraîche odeur de cuivre. À présent, il mourait de chaleur et de déshydratation bien plus que de ses blessures. L'un de ses bras était cassé et tordu. Une large meurtrissure bleue marbrait sa poitrine. Un hématome levé comme un soleil pourpre sur une pommette écrasée et les testicules étaient démesurément enflés. Une blessure à la tête avait saigné sur le sable et les cailloux et l'entraînait de plus en plus profondément vers ce coma dont il ne sortirait pas. Pourtant, il respirait encore et l'air brûlant s'échappait de ses lèvres en sifflant comme une dent brisée. Lorsque le sifflement s'accentuait sur un souffle plus fort, les vautours s'ébrouaient, dérangés dans leur veille. Une femelle de coyote suivie de ses petits s'arrêta un instant, juste le temps de claquer des mâchoires en direction de l'homme afin d'instruire ses jeunes et leur faire comprendre qu'en temps ordinaire, la pitoyable créature qui gisait là était en fait un animal dangereux. Au passage, elle salua un vieux mâle abrité à l'ombre d'un rocher et possédé d'une intense curiosité. Il ne détachait pas son regard de l'homme, et si, par moments, il en venait à s'assoupir, il conservait dans son demi-sommeil une vigilance dont l'acuité nous est inconnue. Il avait le ventre plein, et le spectacle de cet être en train de mourir lui apparaissait comme la chose la plus fascinante qu'il ait observée depuis longtemps. Il ne ressentait qu'une immense curiosité, rien d'autre. Lorsque l'homme serait enfin mort, le vieux coyote s'en irait et abandonnerait le cadavre au vautour. Il était là depuis un bon moment. Il se trouvait déjà à proximité lorsque l'homme, nu, avait été jeté hors de la voiture la nuit précédente. Dans la fraîcheur relative du soir, un paysan mexicain et sa fille s'avancèrent le long de la route, s'arrêtant parfois pour arracher aux broussailles un morceau de bois mort à brûler. Plus exactement, l'homme avançait pesamment sous sa charge de mesquille, tandis que sa fille caracolait, sautait d'un pied sur l'autre, gambadait, courait en avant puis s'arrêtait pour attendre son père. Elle était son unique enfant et il ne lui permettait pas d'entrer dans les broussailles, craignant qu'elle se fasse mordre par un scorpion ou un corallo, un de ces serpents corail qui, à l'inverse de leurs congénères à sonnette, ne préviennent jamais avant d'attaquer. D'ailleurs, les corallos ne mordent que lorsqu'ils se sentent acculés ou provoqués. Le reste du temps, ils sont timides et discrets, dénués de réelle méchanceté. La fillette portait une Bible sous son bras. Elle travaillait parfois aux cuisines de la mission Mennonite dont son père était le gardien. Elle se mit à fredonner un air et son chant dispersa les vautours assemblés une centaine de mètres plus loin. De toute manière, ils étaient sur le point de s'envoler afin de rejoindre leurs aires avant que la nuit ne tombe complètement. Le vieux coyote se tassa un peu dans l'ombre de son rocher. Il reconnut les voix de l'homme et de sa fille. L'expérience de ces 7 années d'existence lui avait appris qu'il n'avait rien à redouter de leur part. Il les observait souvent sur le chemin qui menait à la mission. Eux ne l'avaient jamais vu. L'envol des grands oiseaux dans le soleil couchant éveilla l'attention du père et il hâta le pas en direction de l'endroit qu'il venait de quitter. Il possédait une curiosité de chasseur un peu semblable à celle du coyote. Il se souvenait du jour où, en suivant ainsi un vol de vautours, il avait découvert la carcasse d'un grand cerf tombé d'une falaise. Il ordonna à sa fille de l'attendre à distance et entra avec précaution dans le réseau dense de broussailles et de ronces qui bordait la route. Il entendit un souffle, suivi d'un faible sifflement, et ouvrit aussitôt son long couteau à manche de nacre. Il avança silencieusement vers l'endroit d'où venait le souffle, reniflant une odeur de sang mêlée à celle des fientes de vautour. Puis il vit l'homme et lâcha lui-même un mince sifflement. Il s'accroupit et tâta le pouls. Il possédait quelques notions de secourisme acquises avec le médecin missionnaire qui l'accompagnait parfois dans ses expéditions. Il se redressa et siffla de nouveau en même temps que le mourant. Puis il regarda le ciel. Il était essentiellement de sang indien et sa première impulsion le poussa à s'en aller, abandonner l'homme et éviter ainsi tout contact avec les fédérales. Mais il pensa qu'après tout, le docteur entretenait d'excellentes relations avec la police. Il se souvint également de la parabole du bon samaritain et jeta un coup d'œil fataliste vers le corps avec l'air de se dire « Je veux bien faire quelque chose, mais à mon avis, il est déjà trop tard. » Il revint sur la route et dépêcha sa fille vers la mission qui se trouvait dans la vallée, à moins d'un kilomètre. Puis il s'accroupit au bord de la route et se mit à retourner des cailloux avec la pointe de son couteau. Le spectacle d'un homme aussi gravement blessé le troublait, mais il se forçait à mettre au point l'histoire qu'il raconterait aux fédérales. Dans sa jeunesse, outre son métier de chasseur, il avait également été un peu brigand et il savait qu'il fallait toujours raconter des histoires simples aux autorités. Le livre en vie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Tiphaine, à la technique de m'avoir accompagnée. La semaine prochaine, un autre roman incontournable, classique de la littérature et véritable chef-d'œuvre, « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Je vous souhaite une semaine printanière sur Esprit Occitanie et des lectures parfumées. Et surtout, n'oubliez pas, le livre papier, c'est la liberté.